Lag à part. Bonjour à tous, c'est l'épisode numéro 17 de Lag à part et vous nous suivez toujours ou nouvellement, je sais pas. Je suis toujours en compagnie de mes trois compères.
Moi personnellement, je suis là depuis le 1.
Mais tais-toi. Mais enfin. Eh ben, je présente Yamato, voilà, qui parlait. Donc voilà, tu as dit bonjour, c'est fini, voilà. Tu as parlé. Nico,
bonjour.
Nico, ça va ?
Ça va, ça va.
Ça va, tu nous parles de quoi aujourd'hui ?
Je vais parler de la Nintendo NX et de comment Nintendo nous fait attendre avec du vent, avec rien, en fait.
D'accord. Ouais. Ok.
On n'a rien.
On n'a rien du tout.
Rien du tout.
Rien du tout. Ok.
Ça me rappelle la politique.
Ouais, c'est ça.
Nio ?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Oui.
Ok. Tu vas nous parler de quoi, toi ?
Moi, je vais vous faire un quiz en fin d'émission parce que c'est bientôt les vacances et du coup, on fait des quiz quand c'est
bordel.
Les vacances.
C'est le mec. Ok, ouais, c'est le quiz Biba. Alors là, on se vautre.
Eh non, j'ai pas dit Biba. C'est un quiz culture générale. De
non,
quoi tu parles ?
Rien que t'inquiète, en mois de juin, elle nous filera un cahier de devoirs de vacances.
Ah, mais grave. Ah, mais grave.
Moi, je me tire si elle fait ça. Et Yamato, alors, je te re-rends la parole. Tu nous parles de quoi aujourd'hui ?
Moi, je dis, je suis là depuis l'un parce que je suis obligé de les écouter avant de les publier. Hein. Ben moi du coup je suis parti à la recherche du respect sur la PS4 et la Xbox One parce que je pense qu'on se fout un peu de notre gueule en fait.
D'accord, tu parles de la PS4 ou de la PS4.5?
Oh ben un peu tout en fait justement, ah, okay, voilà, c'est ça qui est intéressant.
Ok, donc on peut spoiler direct, il n'y aura pas de respect là-dedans?
Pas beaucoup non.
Ok d'accord.
Mais en fait pas du tout.
Et moi c'est Bat, et puis comme c'est bientôt l'été, on va parler d'un sujet un peu détente, on va faire une petite rétrospective sur la Saturne. Ben parce que je l'aime bien cette console, donc voilà.
Culture de gamer.
Bat, tu vas nous parler de Saturne. Alors ça tombe bien, moi j'adore le système solaire.
Exactement, donc on va parler d'astro... Non,
non.
Arrête, ah, tu me perds. Donc je vais parler de Saturne. Donc en fait, à la base j'avais songé faire une petite rubrique, les conseils de l'été. Je vous parlais de comment avoir des abdos en 15 jours sans effort avant d'aller à la plage. Mais en fait, on va plutôt parler de pourquoi la Saturne c'était génial et quel jeu vous allez lancer dessus cet été au frais chez vous pendant que les autres vont se faire cuire le cul au soleil sur une plage surpeuplée.
J'aurais préféré que tu parles de comment on a des abdos, moi j'arrive pas.
Mais la Saturne, ça t'intéresse pas ?
Si, mais après.
Alors, la Saturne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la nouvelle console de Sega. Enfin, c'est ce que je vous aurais dit si on avait enregistré en 94. Donc la Saturne, c'est la console successeur de la Mega Drive. Et là, je vais passer rapidement sur les anecdotes, parce que sinon, petit A, je vais y passer la journée. Et petit B, je vais me faire tomber dessus par les fans de la console et me dire oui, mais t'as pas dit qu'à la base c'était une console Sega Sony et que finalement Sega dit un truc comme lol, c'est qui Sony ? Et bon, bref. Donc en fait, et puis.
Si vous voulez savoir tout ça, de toute façon, vous achetez le hors série Retro Gaming Canard PC Hardware. Excellent numéro.
Oui, tout à fait. Écrit par votre serviteur.
On n'est pas du tout dans de l'auto-promo là, c'est
non, absolument
c'est
pas.
Bien.
Jamais. Et puis sinon, je pourrais vous schnapser un petit peu en disant que j'ai joué à la Saturne avant vous. Parce qu'un pote, un pote à moi avait gagné la version japonaise, donc j'ai joué 2 semaines après la sortie japonaise.
Wow.
Alors là, ah, comme je vous ai calmé.
Ouais, mais alors moi, mon pote, parce que moi j'avais un pote, son père il lui a rapporté du Japon la PlayStation. Ah merde, c'est pas le sujet.
Non, on parle de la Saturne. Ah,
moi
console.
J'ai une Ferrari.
Voilà, exactement.
Donc la Saturne, pour faire short, elle s'est complètement vautrée commercialement. On n'expliquera pas le pourquoi du comment, parce qu'on n'a pas vraiment le temps pour ça et qu'on n'est pas non plus là pour ça. Mais on peut dire, à titre de comparaison, qu'il y en a un peu moins de 10 millions qui s'est vendu contre un peu plus de 100 millions pour la Play. Comme petite différence.
Oh, ça reste quand même honorable, 10 millions dans l'absolu. Surtout à 3500 francs la console. Bon,
ouais, le truc, c'est que Sony a sorti la console quasiment 2 fois moins cher également. Alors, c'est quoi l'intérêt que je vous parle de la Saturne, du coup ? Pourquoi on parle de cette console qui s'est vautrée face à la Play ? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'il y a des jeux que tu trouveras que sur cette console. Et qu'il faut y jouer parce que c'est bien. Voilà. C'est mon argument.
Alors, voilà.
Alors en fait, voilà. Cette console a été cool parce que on avait déjà tous les portages arcade. Faut savoir que Sega à la base c'est quand même une boîte qui fait de l'arcade, enfin qui s'est illustrée en tout cas pour avoir fait beaucoup d'arcade. Donc que ce soit sur la Saturn ou sur la Dreamcast plus tard, on a beaucoup de portages arcade et généralement des portages assez propres pour le coup.
Très propres.
Donc on a voilà vite fait, on va passer sur les portages arcade qui valent le coup. Il y en a beaucoup, je vous laisserai fouiller un petit peu, mais il y a les classiques, les Sega Rally, les Virtua Fighter. Bon, moi je suis pas hyper fan de Virtua Fighter, mais il a le mérite d'être là. Les House of the Dead et Virtua Cop qui sont ouf.
Je peux en conseiller un.
Ouais.
Le Die Hard d'arcade.
Oui.
Excellent. Oui. Excellent beat'em all.
Exact. Exact, ça, je l'ai mis dans ma sélection et puis en fait j'ai fait une sélection non arcade ensuite parce que je me suis dit ce serait cool quand même de tester les trucs qui sont sortis que sur Saturn ou dont l'épisode est vraiment intéressant sur Saturn.
Mais je te coupe juste pour rester une seconde sur l'arcade, c'est qu'il fallait savoir à l'époque, je sais pas si tu comptais en parler, que si t'avais pas les moyens de te payer une Neo Geo qui coûtait super cher à l'époque, tu pouvais choper une Saturn pour le quart du prix.
Il y avait plein de jeux
et jouer au coffre, mais les coffres étaient arcade perfect. Enfin, il fallait avoir la cartouche mémoire qui se branchait derrière, mais sinon c'était la seule console en dehors de la Neo Geo qui passait les coffres en arcade perfect.
Ouais, c'était pas arcade perfect, mais c'était pour l'époque c'était
hyper propre. Plus proche. KOF 97 sur Saturn, il est sublime. Ah ouais. Il est vraiment, vraiment impeccable. Quoi. Donc en fait, les jeux Saturn, c'est dur de les trouver. Les bons, il y en a eu quelques-uns quand même. Hein. Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur plus de 1000 jeux, il y en a uniquement 288 qui ont réussi à sortir du Japon. Donc il y a quand même un paquet de jeux qu'il faut aller chercher en import. Donc moi je vous fais ma petite liste des jeux à tester cet été. Donc comme je vous l'ai dit, on invite un petit peu les portages arcade et on va rester un petit peu sur les épisodes Saturn. Alors là ça va être un peu la foire parce que je vais vous sortir une liste de jeux très rapidement. Donc je pense que je vais me faire crier dessus par Nico et Valentin qui vont me dire ouais t'as pas parlé de ça, non ce truc là il est nul, la version Play elle est mieux.
Moi c'était ma première console 32 bits la Saturn à l'époque. En fait, j'ai eu les consoles 32 bits assez tard, parce que la Saturn avait déjà baissé de prix, mais c'était ma... En fait, quand on m'a demandé de choisir entre la PlayStation et la Saturn, j'ai pris la Saturn justement pour les jeux de combat.
C'était un petit rebelle. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup
de
combats.
Bah non, c'était pour les jeux de combat, ah, parce que ma mère était là, ouais, comme ça, tu pourras jouer avec tes petits copains et pas rester seule dans ta chambre, si elle savait.
Loul. Donc je vais commencer avec un petit platformer 3D, c'est un bon platformer 3D qui est pas du tout évident avec un système de jeu plutôt original, c'est Burning Rangers. Je sais pas si vous y avez joué.
Très peu, mais je connais le jeu. Ouais.
Mais voilà, qui est très cool.
Le thème principal est génial. Hein. Le mec, il chante, il est à fond, on adore.
Ah, mais c'est le jeu est cool. Je vais rester sur les platformers en 2D avec Clockwork Knight 2.
Ça me dit
c'est un 2,5D en fait. Le jeu est tout en 3D, mais on se déplace en 2D dans les niveaux. C'est choupi, c'est bien foutu, c'est chouette. On a Wipeout 2097. Alors, je sais, il est sorti sur PlayStation avant. Mais la version Saturn, moi je la trouve mieux.
Non, elle était cool la version.
Je suis pas sûr qu'ils soient sortis avant sur PlayStation.
C'était un des premiers jeux sur Play. Donc
c'est un portage de la version.
Ou alors c'est Tomb Raider qui a démarré avant sur Saturn.
Tomb Raider avait été développé pour Saturn avant d'être adapté sur Play et sortir en même temps. Mais là, c'est la version de le maître étalon, c'est la version Saturn.
D'accord. Tout à fait. Bon, après, on va monter un petit peu d'un cran avec le meilleur RPG de la Saturn, selon moi. Donc là, vous pouvez m'insulter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. J'argumenterai. Grandia.
Ah si, ça va.
Il n'y a pas de main game, de toute façon. C'est le meilleur. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sorti en PAL sur Saturn. C'est le souci, en fait.
Donc très dur. Très, très dur RPG. Et qui a bénéficié d'une suite qui était vraiment très bien sur Dreamcast, Grandia 2.
Moi, je n'ai pas du tout aimé la 2. En fait.
C'est vrai
j'ai pas accroché par rapport au 1, justement, parce que c'est trop différent. En fait.
Moi, typiquement, j'ai passé un été où je me suis enfilé Grandia 2 et Skies of Arcadia sur Dreamcast. Ça m'a fait 2 mois. Impec.
Rentable.
Ah ouais, complètement. J'ai pas eu le soleil, c'était génial. Après, on a un jeu de snowboard assez rigolo qui s'appelle Steep Slope Sliders.
Steep Slopes.
C'est pas Sliders. Du tout imprononçable, hein. C'est sympa.
Non, c'est pas du tout imprononçable. En fait, j'ai envie de parler de ce jeu parce que, bon, il était bien, il y avait plein de tricks à faire et tout ça, c'était assez nouveau pour l'époque. Et en fait, il avait la particularité d'utiliser l'horloge interne de la console pour régler l'heure et le temps dans le jeu. Ce qui fait qu'en fait, si jamais tu étais un bon élève qui jouait tard après avoir fait tes devoirs, et ben il faisait tout le temps nuit dans le jeu. Et tu comprenais pas trop ce que c'était que ce jeu de snowboard de nuit, en fait.
Et donc, il fallait changer l'heure de la console pour avoir un peu de soleil.
Et voilà. Donc ça, c'était très rigolo. Ensuite, il y a Shining Force 3. Merveilleux tactical RPG. Normal. Qui est sorti un peu vers la fin de vie de la console et qui n'a pas quitté le Japon.
Alors d'ailleurs, entre nous, maintenant, si vous avez accès à des moyens alternatifs, il existe des versions traduites.
Oui, tout à fait, mais j'en parle après en fait. J'en parle après parce que, évidemment, quand je vous parle de jeux qui n'ont pas quitté le Japon, il y a eu des versions traduites qui sont sorties qu'on trouve principalement sur émulateur en tout cas.
Il n'y a pas eu sur Steam aussi une fournée il n'y a pas longtemps de jeux de ce style.
Ah, c'est possible.
Saturn, je ne sais pas. Mega Drive, il y en a une tripotée.
Peut-être pas Saturn alors.
Ouais. Mega Drive, il y en a pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu passer? J'ai vu passer, il y a eu les vieux classiques arcade.
Grandia 2, il me semble qu'il est sorti sur Steam aussi.
C'est vrai?
Je crois bien.
Ouais. Là, ça vaut le coup de chercher sur Steam parce qu'il y a pas mal de vieux jeux de l'époque.
Donc ensuite, je suis obligé de parler de Saturn Bomberman parce que tout le monde connaît Bomberman. Et puis je dois parler de cette version sous peine de représailles d'un ami drogué à ce jeu et au KitKat Tematcha qui se reconnaîtra.
Il fait du kickboxing aussi ou un truc comme ça.
Il fait plein de sports de combat, ça. Je suis obligé. Et il tue tout le monde à. Il tue tout le monde à Saturne Bomberman. On peut parler de Outrun aussi. Donc je kifferai l'ambiance toute ma vie. Ce jeu a vraiment une ambiance particulière.
Quelle que soit la version, il est quasiment toujours bien.
C'est ouf. Ouais. Et en fait, il y a une petite feature secrète sur la version Saturn avec un code pour mettre le jeu à 60 FPS.
Oh.
Et du coup, plus smooth, tu meurs. Et donc, c'est vraiment très cool. Il y a bien sûr le jeu d'aventure un peu bizarre Nights into Dreams, qui est vraiment
un jeu bien aimé,
qui est super cool. Ouais. C'est une grosse balade, quoi. C'est un jeu d'aventure balade. Valentin, c'est trop de poésie pour lui.
J'y repense rétrospectivement, mais je pense que c'est pas mal foutu de notre gueule. Parce que bon, le jeu était extrêmement court, mais alors on était là, ouais, t'inquiète, t'as de la replay value, t'as des trucs à trouver et tout. Non, je suis désolé.
Non, c'est vrai.
C'était joli, c'était sympa.
Onirique.
Mais moi, c'est le jeu qui m'avait vendu la console. Je sais pas si tu te rappelles des.
T'étais très rique d'ailleurs, Oni, sur ce jeu. Onirique.
Tout à fait. J'étais onirique.
Un spedo. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si vous vous rappelez des pubs qu'il y avait à l'époque où on voyait des images du jeu avec un mec qui commentait en mode ouais, j'ai joué à ce jeu et j'ai bien aimé ça, machin, tout ça. Et on voyait des images de Knights et moi, ça me vendait complètement la Saturne. Et je me disais, non, moi, il me faut une Saturne pour ce jeu. Alors, j'en ai jamais eu avant très tard, mais
j'en voulais une pour ça. Knights into Dreams n'est pas sorti au début de la vie de la console. Hein, de
non, il est sorti un petit peu plus tard, mais ouais.
Alors, après, si je continue, et là, je pense que ça va plus parler à Yamato, on a Panzer Dragoon 1 et 2.
Génial.
Donc shoot 'em up sur fond de musique orchestrale qui défonce tout.
Ouais.
Et Panzer Dragoon Saga qui a pas grand chose à voir hormis l'univers puisque c'est un RPG avec des phases de shoot. Mais qui était dément.
C'était super cool, hein, mais franchement, tu les relances avec le recul, tu prends la 3D de la Saturne de l'époque dans la gueule.
Oui, bien sûr.
Mais genre, frontal direct, quoi.
C'était old
school. Mawashigiri de la 3D avec carré dans la gueule.
Les polygones qui tremblent et
mais
tout.
Mais c'est pas grave, parce que, en fait.
Les polygones qui sont mal raccordés à certains.
Ouais. C'est très dur au début, mais au bout d'un moment, tu finis par kiffer ta race dans la mesure où, franchement, la mise en scène est cool, les caméras sont cool, et tout est cool, en fait.
Il y a un Beat'em All aussi dont je voulais parler qui est Guardian Heroes. Et en fait, je le trouve vraiment intéressant parce que j'ai toujours aimé le principe des RPG où tu fais évoluer ton personnage. Et là, c'est un beat'em all dans lequel tu fais évoluer ton perso comme dans un RPG.
On va être franc, c'est le meilleur. Bon, pour moi, c'est le meilleur beat'em all de la génération 32 bits de loin, en fait.
Ouais. Bon, ok, donc le mec va plus loin que moi, ok. Tout.
Non, mais tu peux y jouer à 8. Tu peux faire du versus en arena avec tous les persos du jeu, monstres, NPC, boss, perso et tout.
Tout à fait.
Il y a le système de level up, il y a je sais pas combien de scénarios possibles, de fins différentes, d'embranchements différents. Enfin. Si vous voulez y jouer, vous prenez la version Xbox Live ou PSN.
Ouais, il est ressorti sur Xbox
Live. Je sais pas s'il est sur Steam, je crois pas, mais voilà, les versions Xbox Live et PSN filtrées sont géniales aussi. Enfin, foncez quoi, il y a même pas aucune hésitation à avoir.
Donc voilà, si Yamato le dit, foncez.
En plus, vous pouvez frapper vos amis, c'est cool.
Et je vais finir sur Deep Fear, qui est un survival horror qui se passe dans un sous-marin nucléaire. Il y a très peu, voire pas de musique de mémoire. C'est vraiment oppressant. C'est, je pense, un petit peu moins bien réussi que Resident Evil, mais c'est un très très bon survival horror malgré tout. Et en fait, c'est le dernier jeu à sortir en Europe sur la Saturn. Donc il n'est pas parfait, mais il vaut le détour. Donc si vous ne possédez pas de Saturn chez vous, que vous ne voulez pas vous endetter sur 3 générations pour acheter ces jeux, il reste l'émulation, avec notamment l'émulateur SSF pour émuler sur PC. Et en fait, la petite anecdote qui va bien, c'est que le créateur de SSF Shima, qui n'avait pas donné de news depuis 2011, a annoncé il y a une semaine sur sa page, page qui a un design old school des années 2000, il a annoncé sur la page de l'émulateur, fin avril, qu'il reprenait du service pour mettre à jour son émulateur et finir de rendre compatibles les derniers jeux qu'il n'était pas. Donc c'est plutôt une chouette nouvelle.
Sachant que de base, effectivement, il fonctionne extrêmement bien. Il faut une bonne machine, mais non. Enfin, c'est une bonne machine de 2011, donc
ouais,
ça va.
Ça émule, quasi tout. C'est 80 ou 90% du catalogue Saturn. Ça tourne super bien. C'est clean.
Seul contre tous.
Oni.
Oui.
Donc tu vas nous parler de la NX.
Tout à fait.
Nintendo.
Oui.
C'est ça.
Exactement.
Personne connaît ça.
Personne ne connaît, non, bien sûr. Non, mais mes chers amis, j'ai voulu profiter de cette période de renouveau pour vous parler de nouveautés. C'est dans le ton. C'est le printemps, les oiseaux chantent, les bermudas, les chemises à fleurs et les sandales reviennent à la mode.
Et les chemisettes.
Non,
pas les chemisettes.
Et Nintendo nous prépare une nouvelle console. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent, hein, parce que pour l'instant, on sait rien. Rien du tout sur cette soi-disant console de Nintendo qui serait dans ses cartons. Donc je dois vous confier que j'ai été un peu embêté pour préparer cette chronique parce que ben, si mes calculs sont bons et si les dieux du podcast sont avec nous, cet épisode de La Gapard doit être diffusé quelques jours avant l'E3 2016 et que moi, ben, je comptais beaucoup sur cette cérémonie du gamer dans la Cité des Anges pour enfin découvrir cette fameuse console, cette fameuse Nintendo NX. Parce que oui, c'est son nom, c'est la NX, bon c'est nul à chier par terre, mais bon rassurez-vous, c'est un nom provisoire. Alors on sait rien donc sur la NX et justement on saura rien non plus pendant l'E3. C'est très embêtant parce que, voyez-vous, au moment où je vous parle à travers un microphone, ça fait déjà plus d'un an que la console existe et parce qu'elle a été annoncée pour la première fois en mars 2015. Donc ça fait exactement...
Joyeux anniversaire
ouais, bah ça fait bah même un peu plus, ça fait exactement 14 mois que Nintendo nous balade avec une console qui existe mais qui n'existe pas et dont la date de sortie a déjà été repoussée de fin 2016 à mars 2017. Et quand je vois ça, moi j'ai envie de demander à Nintendo « Qu'est-ce que vous foutez, bordel de cul ?» Alors, petit cours d'histoire. Depuis que la NX a été annoncée, la sonde Messenger a atteint la planète Mercure, la sonde New Horizons a atteint la planète naine Pluton. On a découvert pour la 8000e fois que les riches du monde entier cachaient de l'argent au Panama. Le mariage homosexuel a été légalisé par la Cour suprême des USA dans tout le pays. Une éclipse solaire totale a eu lieu le jour de l'équinoxe de printemps, un événement qui n'était pas arrivé depuis 1662. C'est vrai, hein. Satoru Iwata, Percy Sledge, Wes Craven, David Bowie et Prince sont morts, entre beaucoup, beaucoup d'autres. Et toujours pas de Nintendo NX, même pas une petite photo pour nous occuper. Alors pour une autre console, ce serait pas forcément très grave, mais le problème c'est que là, on parle d'une console Nintendo. Et je sais pas pourquoi, avec Nintendo, ça part toujours complètement en sucette au niveau des fakes, etc. Et là, je vous jure, mes petits amis, je vous prie de me croire qu'on a eu droit à une sacrée dose cette année. Tenez par exemple, si j'ouvre Google là, tout de suite, en tapant Nintendo NX, je tombe sur une news toute fraîche hein, qui se demande si la NX n'utiliserait pas les cartouches à l'ancienne pour ses jeux vidéo. Et je déconne pas, hein, le titre est repris, mais alors au mot près, sur au moins 3 sites différents en première page de Google. Alors, voilà, je sais pas, avec Nintendo, on a un peu tendance à débrancher le cerveau quand on parle de rumeurs. Tenez par exemple, en mars dernier, on voit débarquer sur Reddit une manette, de forme ovale, avec aucun bouton en façade, mais un écran qui prend toute sa largeur et deux sticks plantés au milieu de l'écran. Le mec qui balance les photos refuse de donner son identité, mais il explique qu'il bosse pour un éditeur qui a reçu un kit de développement, etc. Et là, la machine internet se met en marche. Tous les sites d'actu du monde entier s'arrachent les photos pour les publier en annonçant qu'il s'agit de la manette de la NX, sans aucun doute possible. Les mecs sur Reddit jouent les petits détectives en décomposant les touches du clavier de l'ordinateur qui apparaît sur une photo et en analysant le reflet d'un arbre mort par la fenêtre sur le socle de la télé, je vous jure que c'est vrai, hein, pour annoncer que la fuite vient du studio Massive Entertainment, filiale suédoise d'Ubisoft. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 jours plus tard? Je vous le donne en mille. On apprend que cette manette était un fake. Oh là 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 là! L'auteur, qui est finlandais, donc pas du tout suédois, mais remarquez, c'est pas très loin sur une carte, a expliqué, toujours sur Reddit, qu'il a tout fabriqué grâce à une imprimante 3D. Et que pour le design, il s'était inspiré d'un autre fake, publié quelques jours avant sur Reddit, lui aussi. Sauf que bah, c'était trop tard, le mal était fait, l'info s'est répandue comme une traînée de poudre sur internet, et tout le monde a pu voir la vraie fausse manette de la NX. Journalistes, éditeurs, internautes, joueurs, femmes et enfants, tout le monde a été victime de l'intox. Et je les comprends, enfin, ça fait déjà 14 mois qu'on se paluche avec rien sur une console dont on ne sait rien et sur laquelle Nintendo ne dit rien. Donc pour conclure, j'en appelle à ces messieurs de Nintendo. Je détiens présentement en otage une peluche Kirby. Je lui passerai bien le micro pour vous prouver qu'il est vivant, mais vous ne l'entendrez pas, c'est une peluche. Mes demandes sont simples. Faites péter les infos sur la NX. Une photo, un jeu, une vidéo, une info, tout ce que tu veux, je m'en fous. Si mes demandes ne sont pas respectées sous 24 heures, je n'aurai d'autre choix que celui de m'en prendre au pauvre petit Kirby. Et vous seul pourrez être tenu pour responsable
non,
des conséquences.
Pas mon Kirby.
Ah si, désolé. Et si vous ne le faites pas pour nous, faites-le au moins pour Kirby, merde.
Mais tu veux qu'on reparle du temps d'attente de la 64 ou pas?
Non, c'était long. J'ai encore mal.
Tu te rappelles de combien de temps on a attendu?
Mais alors, ça a été long, mais en fait, ils avaient déjà montré des images très très tôt, c'est différent.
Oui, c'est vrai, mais ça a été l'Arlésienne pendant 5 ans, je crois.
Peut-être pas 5 ans, mais en fait, quand
c'est 3 ans,
3 ans plutôt. En fait, quand la Play est sortie, Nintendo s'est dit, bon, on a un problème parce que ça devait être notre console, donc c'est pas notre console, il faut qu'on fasse une console, donc on va commencer à dire aux gens qu'on en a une dans les cartons. Donc ils ont dit, ouais, on a une. Elle portait un nom de planète aussi, je crois, à l'époque.
Non, c'était pas la Dolphin.
Non, la Dolphin, c'était la GameCube. En fait, elle portait un nom genre Neptune ou un truc comme ça. Enfin, il me semble qu'elle portait un nom de planète en nom de code. Ils disaient oui, on va vous montrer à l'E3 une console machin de ça. Et ils n'avaient pas montré de photos. Et ils avaient dit, mais elle sera plus puissante que la PlayStation. C'était un peu l'argument en disant, elle sera mieux, achetez pas de PlayStation, vous allez voir, ce sera mieux.
Ouais, et effectivement, on était encore dans les courses aux 16 bits, 32 bits, 64 bits.
Exactement, exactement. Et du coup, leur argument, c'était, parce qu'ils avaient raté deux Noël de suite face à la Play, et leur argument, c'était, achetez pas de PlayStation, vous allez voir, notre console, elle sera mieux. Et bon, elle est sortie 3 ans plus tard.
Ouais, c'est.
Elle était effectivement plus puissante, mais les jeux, enfin, c'est les jeux qui faisaient la différence.
Le truc, c'est qu'à l'époque, nous, de notre point de vue de public, on se disait que c'était toujours une question de puissance de la console qui allait faire que.
Bah, à l'époque, c'était le marketing qui disait ça.
Sauf qu'en réalité, voilà, ça, c'est un argument marketing, mais un des gros freins ou des gros moteurs pour une console, c'était aussi son development kit pour les éditeurs et les développeurs.
Ouais, tout à fait.
Et si t'as un development kit propre sur lequel c'est facile de développer. Les éditeurs et les développeurs vont suivre et tu vas avoir un catalogue de fou.
Bah, typiquement la Saturn et la Play.
La Saturn, le SDK n'était pas évident à utiliser par rapport à celui de la Play. Il y a moins de gens qui sont moins de développeurs.
Mais même la Saturn, c'était encore même un problème d'architecture, le double processeur machin qui faisait chier tout le monde.
Oui, bien sûr. Et la Jaguar, par exemple, le SDK était atroce, pas fini, etc. Personne n'a développé de jeu dessus. Ça a été une des raisons de l'échec critique.
Alors, Nintendo, c'est encore un autre problème parce que je pense que Nintendo s'est donné les moyens de faire un SDK qui tenait la route pour sa console. Mmh. Le truc, s'il faut le savoir, il y a assez peu de gens qui le savent, c'est que quand tu développes un jeu chez Nintendo, ils te demandent une licence. Tu payes une taxe pour développer un jeu chez Nintendo. Et du coup, il y a des éditeurs qui voulaient pas payer une taxe. Enfin, ils disaient pourquoi j'irais payer
des royalties sur les cartouches aussi.
Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que les jeux coûtaient 500 balles contre 300 chez Sony en fait. Ouais. Et du coup, les développeurs se disaient pourquoi j'irais me faire chier à payer pour développer chez Nintendo alors que si je vais chez Sony ou chez Sega, je le fais entre guillemets gratuitement et mon jeu sera vendu moins cher. Du coup, ils ont eu ce problème-là par rapport aux éditeurs. Ils ont eu du mal à vendre leur console auprès des éditeurs à cause de ça aussi. Ouais. Mais bon, c'est une autre histoire.
À la recherche du respect.
Yamato,
oui,
tu vas nous parler de la recherche du respect dans les consoles next-gen. Enfin, next-gen.
C'est un travail de longue haleine.
Actuel, quoi. PS4, Xbox One.
Ouais. Mais écoutez, c'est très simple. Ça va faire 3 ans. Ça fait même 3 ans. Ah non, ça va faire 3 ans parce que c'était 2013. Là, on est en 2016. Ça va faire 3 ans que je cherche le respect sur cette génération. Et bah malheureusement, je l'ai pas trouvé. Et franchement, au vu des dernières nouvelles, c'est pas gagné non plus.
On avait déjà dit, je crois, il y a environ un an, qu'il y avait pas beaucoup de respect dans les next-gen, si je me rappelle bien.
Ouais, c'est vrai. Mais depuis, il y a eu 2-3 éléments supplémentaires qui ont ajouté de l'eau au moulin.
Une nouvelle preuve à charge.
Voilà, exactement. On en parle depuis quelques temps. Donc on a Sony qui préparait dans ses cartons une PS4 Neo. Apparemment, c'est son nom de code qui serait plus puissante, qui permettrait de lire des contenus en ultra HD, notamment de la vidéo qui permettrait d'afficher les gens en ultra HD, mais attention, il y a des Zouloutes et compagnie.
Attends, tu veux dire qu'il nous faut une console qui affiche les gens en ultra HD quand ils sont déjà pas foutus d'en avoir une qui affiche en 60 FPS?
Ouais, alors tu verras, en fait, j'expliquerai plus tard la partie technique, mais bon, on se fout de notre gueule, hein. Frère, clairement, on se fout de notre gueule, voilà, c'est nul et non avenu pour moi. Bref, du coup, on revient effectivement fin d'année 2013. On a la Xbox One et la PlayStation 4 qui sortent à peu près en même temps. C'est genre à une semaine d'intervalle que ça se joue dans un mouchoir de poche. On a des consoles qui sont en fait complètement rushées. À l'époque, en fait, on s'aperçoit que c'est les éditeurs qui poussent énormément pour remplacer la gen précédente, parce que la Xbox 360 et la PlayStation 3, c'est des machines qui ont l'une 8 ans, l'autre 7 ans. Donc elles ont eu un cycle de vie énorme, en fait, très très long. Et la puissance du PC fait que le gap, en fait, finit par être techniquement insurmontable. Les versions consoles, à chaque fois, sont toujours tronquées. Visuellement, c'est moche.
D'autant plus qu'en termes de contenu de jeu, à une époque, on avait une vraie dissociation entre les jeux PC et les jeux consoles.
C'est ça.
Où là, on commence à voir comparer le jeu PC et le jeu console. Si on parle des mêmes jeux, affichés potentiellement sur les mêmes écrans quand on a un Steam Link ou un gros câble HDMI. Du coup, la comparaison tient complètement la route, quoi.
Et du coup, en fait, on peut pas non plus couper des consoles, puisque c'est des machines, t'arrives, tu branches 2 câbles, un d'alim, un HDMI, tu t'allumes la console, tu mets ton jeu dans la console et tu joues, tu vois.
Plus ou moins, mais oui.
Un peu moins maintenant, mais...
Je suis d'accord, ça reste quand même plus simple que du jeu PC, et surtout, le ticket d'entrée est moins cher.
Et donc, du coup, comme la, effectivement, comme le gap commence à être trop important, très important, et que en fait, les éditeurs ont besoin de rentabiliser leurs jeux en les sortant en multi-support, et que effectivement, je pense que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour dissocier une version PC, une version Xbox 360 et PlayStation 3, que en plus, pour ne rien changer, ben, dans le cas de la PlayStation 3, c'est assez galère. Et du coup, voilà, ils commencent en fait assez vite en fait sur la fin de vie des présentes consoles à pousser les deux constructeurs à développer carrément une nouvelle machine. Et en fait, le truc qu'on s'apercevra quand les machines sortiront, c'est qu'elles ne sont pas prêtes en fin de compte. Tu vois, par exemple, si je me rappelle bien, l'OS de la PlayStation 4 et de la Xbox One, c'était incapable de lire de la vidéo et encore moins d'aller lire de la vidéo en réseau sur un périphérique DLNA, dont un serveur qui te permet de récupérer de la vidéo ou de la musique. Tu n'es même pas capable de lire un MP3 sur ta console, quoi.
Alors ça, c'était juste un problème. C'était pas techniquement, c'était juste un problème de driver qu'ils n'avaient pas foutu.
Non, c'est ça. C'est
qu'ils n'avaient pas mis. Hein.
C'est ouais. Ça. C'est des trucs comme ça, en fait. Ouais,
c'est
OS...
comme un indicateur sur une sortie un peu à l'arrache.
C'est rushé, oui.
Tu vois, les OS tronqués, il n'y a même pas eu de cahier des charges sur le développement de la console. Ils se sont dit, tiens, on s'est aperçu que ça avait bien fonctionné sur la machine précédente et tout. Non. On se dit, bon, on va leur balancer l'appli Netflix et la possibilité de brancher leur set-top box avec une prise HDMI supplémentaire derrière la Xbox One, et t'inquiète, ils verront pas la différence. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que y a pas de jeux en fait qui sortent, hein. Je veux dire, quand tu prends sur la PS4 les exclus, c'est des flancs comme Knack dont on n'a plus jamais entendu parler. C'est un Forza Horizon qui est très sympa, mais bon, c'est un jeu de bagnole, c'est pas suffisant. Et qu'il va falloir attendre pas mal de temps avant d'avoir des titres exclusifs sur ces machines. Là par exemple, on a un gros blockbuster qui sort bientôt, c'est Uncharted 4. On a eu Bloodborne sur PS4. Bon, Xbox One, c'est encore moins brillant puisque la console ayant fait des chiffres médiocres, toutes les exclues à part Halo 5, maintenant elles sortent également sur PC avec Windows 10.
C'est ça.
J'ai Quantum Break, c'est la sortie simultanée. Killer Instinct aussi qui est sorti. Enfin, c'est un peu la douche froide en fin de
Gears compte. Of War 4, peut-être. Je sais pas quand est-ce que ça sort, ça.
Gears of War 4, c'est bientôt aussi. Il me semble que c'est l'affaire d'un mois ou deux, même à la fin de l'été, mais je m'en rappelle plus exactement. Et du coup, donc ces machines qui débarquent, en plus, techniquement, sont déjà has-been. C'est-à-dire que. On leur demande de sortir des nouvelles bécanes qui vont pouvoir effectivement améliorer la qualité graphique des précédentes machines, mais ça c'est pas très difficile, on a 8 ans d'écart, tu sors un hardware, c'est normal d'avoir un truc meilleur, mais malgré tout on part sur des machines qui ont quasiment toutes les deux la même architecture de base, à savoir un processeur, ce qu'on appelle un système on a chip qui embarque la partie processeur et la partie graphique. Alors, ils ont 8 cœurs tous les deux, il y en a un qui est un peu plus puissant que l'autre entre la PS4 et la Xbox One, mais reste que, même dans le meilleur des cas, c'est-à-dire la PS4, on est au niveau d'un PC milieu de gamme de 2012. Donc, sachant qu'on est en fin 2013... qu'on a les nouvelles générations de GPU PC qui sont en train de sortir et tout, donc le gap se creuse déjà à l'époque, et on se retrouve face à des générations de jeux où effectivement il va falloir tricher, c'est-à-dire que si on veut faire du full HD à l'époque, il va falloir limiter son framerate, enfin sa cadence d'image à 30.
On va baisser le niveau de détail aussi.
Ou alors on va baisser...
Les ombres, les lumières, etc. sont beaucoup moins précises que sur PC.
Toute la partie graphique, effectivement, les textures sont moins fines, l'anti-aliasing, on n'en parle même pas. La Xbox One, c'est encore pire.
Ce qui est quand même grave, parce qu'on nous avait quand même promis à l'époque où les consoles ont été annoncées que c'était fini de voir tone down les jeux pour affronter les difficultés techniques, machin, que la PS4 serait largement assez puissante pour faire du 1080p, 60 fps, ça machin.
Marketing.
Et oui, non mais c'est du marketing.
Le marketing nous a dit non mais la PS4 sera bien plus puissante qu'un PC haut de gamme de son époque. Et tu dis mais comment c'est possible étant donné qu'elle a des composants de PC milieu de gamme.
Non
dedans,
mais alors
quoi.
D'une part et surtout effectivement on se rend compte que c'est pas le cas au final, même si on s'en doutait, mais c'est quand même assez grave de 3 ans plus tard dire ah ben finalement on va refaire la console parce que bon ben celle qu'on a fait au départ elle était peut-être pas parfaite.
Alors après il y a des trucs qu'on peut comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de ce moment-là, les éditeurs ils sont contents, la foule est en liesse, tout simplement parce que on est sur des architectures qui sont très proches du PC, des architectures x86 en 64 bits, comme le PC en fait. Donc du coup, à partir de
sachant
là, les conversions de PC à console et de console à PC sont archi simples et coûtent beaucoup moins cher. Le problème, effectivement, et on l'a vu avec Ubisoft, et là je regarde Ubisoft dans les yeux, mais genre l'air sévère, c'est par exemple c'est l'effet Watch Dogs, où le jeu est sorti sur PC avec une charte graphique à peu près proche de la version console, avec toutes les features graphiques qu'on avait vues dans les précédents trailers de ouf, Complètement désactivée, présente dans le jeu, mais pas activée. Et juste pour pouvoir montrer, regardez, la console, elle permet d'avoir une version quasiment équivalente, en fait.
Est-ce que tu penses que c'est voulu, ça? Parce que ça n'a jamais été...
Complètement, ça n'a jamais été... Enfin, ils n'ont jamais confirmé, mais c'est complètement voulu. De toute façon,
c'est quoi leur intérêt de baisser la qualité volontairement?
C'est
de
vendre les consoles, en fait.
Je pense que c'est...
Donc c'est les fabricants de consoles qui leur ont demandé.
Si tu le mets sur... Tu le fais tourner sur PC, tu le fais tourner sur console, tu mets tes deux écrans à côté, tu fais franchement, c'est pareil.
Oui,
pour le grand public, franchement, c'est pareil.
Mais l'intérêt pour Ubisoft, c'est quoi? Il y en a pas.
Le but, c'est de vendre la version console parce que les versions PC, c'est piratable. Que les versions PC, historiquement, ça se vend moins que les gros hits consoles. Tu vois, t'as des séries comme Call of Duty qui vont faire des ventes énormes sur console et quasiment très peu sur PC. Je pense que pour les Assassin's Creed, c'est pareil.
À ce moment-là, j'ai envie de dire pourquoi sortir le jeu sur PC. En fait, je me perds dans des considérations.
Bah parce que c'est quand même rentable et que la conversion coûte pas cher. Il y a quand même un marché, tu vois. Et du coup, effectivement, le but c'est de faire que les consoles n'aient pas l'air trop honteuses parce qu'il faut vendre la version console sur laquelle on va percevoir plus de thunes, puisque effectivement, les jeux sur console également sont rendus plus chers,
licenciés, etc.
Pourquoi typiquement un jeu iOS, on va payer un portage Android? C'est parce qu'il y a quand même un marché. Le marché est gros sur Android, même si on sait qu'il est énormément plus pirate que iOS.
Ouais.
Tu fais beaucoup moins de thunes sur Android que sur iOS.
En proportion, il y a quand même plus d'utilisateurs d'Android qu'iOS.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui,
bien sûr. Mais tu feras quand même plus de thunes
sur iOS.
Même sans parler de ratio, en valeur absolue, tu feras plus d'argent sur iOS que sur Android. Mais tu vas quand même pas te couper de ton marché Android parce que c'est une base de gens qui est intéressante.
Du coup, effectivement, on s'aperçoit dans ces 3 ans de commercialisation qu'on atteint très vite des limites. C'est-à-dire que là, on en est même capable d'avoir des consoles qui font des graphismes en 1080p corrects. Dans le cas de la Xbox One, on a beaucoup de jeux où c'est en fait une définition inférieure qui va être ce qu'on appelle mise à l'échelle. C'est-à-dire on prend du 900p au lieu du 1080p et on le met à la taille du 1080p pour économiser en fait la puissance graphique de la machine. Et pour un peu plus optimiser. Alors, effectivement, visuellement, à l'œil, il faut le voir, mais ça ne fait pas très sérieux dans l'absolu. Et c'est là, du coup, que les éditeurs en fait commencent à se dire ouais, mais en fait ça va pas, on a peut-être fait une erreur, parce que là entre temps les machines, enfin là à l'heure actuelle où on enregistre ce podcast, il y a Nvidia qui vient d'annoncer ses nouvelles cartes graphiques,
la 1080
et 1070, c'est des bêtes de course avec un rapport prix performance qui est excellent
sur le papier
puisqu'on n'a pas encore eu les benchmarks et tout. Et on connaît enfin, c'est Nvidia, c'est à l'américaine, c'est Hollywood, tu vois, quand ils ont une carte graphique, mais voilà, il faut vérifier quand même dans les faits. Pareil, AMD qui a promis avec sa génération Polaris quelque chose, et là, du coup, on a le premier truc. Alors, Nintendo avait ouvert la voie avec sa New 3DS, c'est-à-dire qu'il avait sorti une 3DS plus puissante, rétro-compatible avec ses anciens jeux, mais avec des jeux spécifiques à la console. Et là, on a Sony.
Il y a un jeu spécifique à la console.
À la console. Je pense que le truc, en fait, à mon avis, n'a pas du tout pris, et voilà. Et là, du coup, on a Sony qui nous dit, nous aussi, on a une PlayStation 4 là dans les cartons, et on s'est dit que ce serait pas mal si elle était plus puissante, parce que on s'est un petit peu emporté sur la VR en fait. On trouve que c'est bien la VR, mais notre console d'il y a 3 ans, c'est difficile. La VR dessus, c'est compliqué. Hein.
Elle tient pas la route.
Alors, peut-être que si on mettait à jour la machine et qu'elle serait plus puissante, ce serait bien.
Oh là 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 là.
Et là, tu te dis, putain, mais les mecs, moi, j'ai une console, je la branche, je l'allume, je joue. Et finalement, moi, mon ressenti personnel en tant que joueur, moi, personnellement, j'aime beaucoup la PlayStation 4 et la Xbox One aussi. Mais même si j'ai acheté la PS4, je trouve que la Xbox One fonctionne sur le même système. Moi, ce que j'aime sur ma machine, c'est que j'arrive, je la branche et que sur un certain cycle de longueur, j'ai cette bécane là, j'ai des jeux dessus, je sais qu'ils sont adaptés à la machine et je joue. Et là, il y a Sony qui me dit en fait, mec, si tu veux tes jeux maintenant en mieux, il va falloir que tu rachètes la bécane en fait, au même prix. Alors, ce qu'il faut savoir sur la PS4 Neo, c'est que Sony a dit aux développeurs, voilà, maintenant vous allez devoir faire vos jeux en deux versions. La version Neo, c'est-à-dire là on pourra avoir du 1080p, du 60 images secondes et compagnie. Enfin, en gros, la machine en fait, elle double ses unités de calcul au niveau graphisme. Le processeur est overclocké d'un bon tiers. Du coup, la bande passante mémoire également est overclockée d'un bon tiers parce que c'est lié. Donc la machine en fait, techniquement sur le papier, on a une machine qui est enfin solide au niveau performance en Full HD. Bon, c'est ballot, il y a entre-temps, il y a l'Ultra HD qui est arrivé. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme la Xbox One à l'époque, on va faire de l'upscale, c'est-à-dire qu'on va faire une image en 1080p, et ensuite on va l'agrandir en Ultra HD, et voilà, paf, c'est magique. Ah, la console fait de l'Ultra HD, c'est merveilleux.
Je te coupe, mais toujours au niveau marketing, Sony avait déjà dit en 2012, avant que la PS4 sorte, qu'elle serait capable de faire de l'Ultra HD.
Oui,
ça
aussi.
N'a jamais été le
ça
cas.
Ça n'a jamais été le cas.
Il l'avait dit.
Mais du coup, en fait, on s'aperçoit en fait après, c'est pas uniquement la VR, mais c'est aussi en grande partie à cause du contenu multimédia. Mon coco, il y a les Blu-ray Ultra HD qui sortent. Netflix commence à faire de l'Ultra HD. Voilà, Ultra HD en cinéma, c'est le format qui va se standardiser et tout. Et puis, ta console, si elle ne fait pas le lecteur multimédia Ultra HD, c'est ballot. Du coup, on se tape un nouveau modèle 3 ans plus tard, qui certes, tu pourras toujours jouer à tes jeux PlayStation 4 de toute la génération PS4 sur ton ancienne, mais ils seront moins beaux, ils seront moins fluides. Il y a fort à parier, en fait, que les développeurs ne se foulent pas vraiment à optimiser, même si Sony, dans son cahier des charges, a précisé que les anciennes PS4 devaient être capables de garder un niveau de performance équivalent au jeu actuel de sa console, que les développeurs devaient donc pas les bâcler. Mais on est à 3 ans de vie d'une console qui finalement fonctionnait bien et que même si on avait du 1080p30, moi je considère qu'on s'en balec parce que tout simplement on joue au jeu, c'était cool, il commençait à y avoir des exclus cool, il y a Uncharted 4 qui est sort et il y a plein de jeux qui montrent que la console bien maîtrisée peut proposer des jeux techniquement réussis. Et non, il va falloir repasser à la caisse pour un casque VR qui finalement n'intéressera qu'une frange marginale.
Surtout que quand tu parles du casque VR plus la console, on arrive à 700 balles, 800 balles de dépenses.
C'est ça.
On commence à finalement, si t'as un PC, arriver au prix d'un HTC Vive ou d'un Oculus Rift.
Alors ouais, par contre, si t'as un PC, il faut le PC qui suit.
Non, j'aime pas ces comparaisons-là.
Non, mais le HTC Vive, pour le coup, promet des trucs plus intéressants que ce qui s'annonce sur PlayStation. Oui. Moi, tu vois, typiquement, j'ai une PS4, un PC. La PS4, j'ai quasi pas d'exclus dessus, très 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 peu. Ouais. Et ceux qui étaient en exclus à une époque sont maintenant sortis sur PC, comme Guilty Gear, etc. Maintenant, c'est vrai, quand je réfléchis à la console, je la lance quasiment jamais. Et je me dis, une nouvelle qui sort, ça va juste me faire dire, ok, je vais vendre ma Play. Je vais juste rester sur PC avec Steam Link quand j'ai envie de balancer quand j'ai envie de pas jouer sur l'écran du PC mais sur une télé ou un vidéoprojecteur.
Ça va faire le bonheur bonheur de Micromania qui va lancer une offre revendez PS4 votre PS4 pour acheter une PS4.
Mais du coup non mais en fait moi je pense très honnêtement que finalement le vin était tiré, il fallait le boire quoi, le fait de créer comme ça une nouvelle machine. Alors, pendant ce temps-là, il y a Microsoft qui parlait il y a une ou deux semaines à demi-mot en conférence de travailler sur des modules additionnels pour la puissance. Et RIP au passage la puissance du cloud sur Xbox One qui permet d'avoir des graphismes de ouf grâce à la puissance du cloud. Vous vous en rappelez ça sur Crackdown ?
Ouais.
J'attends toujours de le voir.
Ouais.
Mais donc voilà, on en est en fait dans une génération complètement perdue au final où on a sorti une machine qui finalement se vendait. Il y avait des jeux dessus, c'était pas top, mais il y avait des jeux dessus et des beaux jeux, il y avait des jeux sympas et tout. Là, les consoles commençaient à avoir un rythme de croisière sympathique, peut-être pas forcément un peu moins pour la Xbox One qui se vendait moins bien. Et puis là, on se retrouve tout ça pour des histoires toujours de marketing en fait, de nouvelles consoles qu'on va racheter pour jouer au même jeu de la même génération en fin de compte. Et moi, je trouve ça très moche. Et personnellement, quand je veux ce genre d'ambiance, j'ai mon PC. Voilà, où je mets à jour ma carte graphique et tout, mais là je suis désolé, racheter une console, c'est non-respect sur 10, quoi.
Le quiz. Nio.
Oui.
Donc tu vas nous parler des stars Nintendo. J'ai pas trop compris en fait ce que faire comme chronique.
En fait, je vais parler d'un quiz. Donc je vais pas parler d'un quiz, du coup je vais vous proposer un quiz, c'est beaucoup mieux.
Tu veux dire qu'on va participer là ?
Vous allez participer, voilà, c'est ça. C'est un jeu, et parce qu'en fait.
Il y a quoi à gagner ?
Non, alors...
Le respect.
Menteur. C'est pas bien de mentir. Non, c'est comme le Père Noël.
C'est un jeu vidéo.
Non, c'est pas... Non, le truc, c'est que là, on est en mai. Et en mai, il y a un adage assez connu qui dit « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Et comme je suis sur un rythme de croisière assez YOLO, j'ai décidé de faire ce que je voulais. Du coup, je fais pas de chronique, je fais un quiz. Parce que YOLO.
Elle a le droit. Parce que YOLO.
Voilà.
Techniquement, on n'a jamais fait de règlement. Hein. Je veux pas dire, mais il n'y a pas de condition générale d'utilisation dans l'enregistrement de la GAPAR. Hein. T'as signé quelque chose, toi ?
Attends, t'as rien signé, toi ?
Moi non plus.
Attends, j'ai signé un truc.
Moi, j'ai rien signé. Hein.
Bon, toujours est-il que le thème de ce quiz, c'est les grands héros Nintendo, les stars Nintendo.
Mario. J'en connais plein. Je connais Mario.
Voilà.
Je connais
Pikachu. Et du coup, vous allez participer à ce petit quiz. Et ceux qui nous écoutaient de chez vous, vous pouvez aussi participer. Et si vous êtes c'est meilleur que les participants, c'est que vous êtes stylé. Et si vous êtes moins bon que les participants, vous êtes stylé aussi. De toute façon, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est que vous participiez et qu'on s'amuse. Donc, il y a 10 questions et il y a 2 types de questions. Il y a les questions culture générale, qui tournent autour d'anecdotes, d'histoires autour des personnages. Et il y a les questions... alors ça, je me suis un peu amusée à le faire, parce qu'il y a plein de quiz, enfin, il y a plein de tests. Quel personnage de Nintendo es-tu sur tous les sites internet de la Terre?
Comment c'est pété.
Grave. Et du coup, j'ai fait plein de tests pour avoir des définitions de personnages qui sortaient. Et je vais vous dire une définition qu'on m'a sortie et vous devrez deviner le personnage qui est associé à cette définition.
Wow. Stylé, rétro-engineering.
Wow. Wow.
Je suis chaud, je suis chaud.
C'est bon, vous êtes prêts?
Je suis méga chaud.
Ok, alors, quel était le premier nom de Mario?
Jumpman.
Jumpman, tout à fait.
Pas comme je vous ai grillé.
Donc maintenant, c'est deuxième question. Faut deviner le personnage. Donc la définition, enfin, le résultat était... Tu es l'ami parfait, discret juste ce qu'il faut, bavard à bon escient, Todd. Mais surtout très attentif. Tu es la personne indispensable à toute relation stable. Ta loyauté et ta générosité font vraiment de toi quelqu'un d'extra.
Mais ça pourrait être n'importe quel perso de Nintendo, ça.
C'est Link.
Mais
c'est
Link.
2 points pour Baptiste.
Mais il parle jamais, Link, c'est n'importe quoi.
Mais oui, il est discret.
Justement, il est discret. N'empêche que moi, des mecs qui parlent jamais, qui mettent des coups d'épée à tour de bras, ça s'appelle un autiste dangereux.
Oui, voilà, moi je lui ferais pas confiance.
Généralement,
hein.
C'est pas l'ami idéal, tu vois. Le mec, il parle pas, il arrive chez toi, il commence à mettre des coups de masse dans tes pots de fleurs.
Il casse, ouais, c'est ça, il casse tout, puis il se barre après avoir tout pris
en faisant des roulades.
Mais c'est quoi ce psychopathe?
Donc ensuite, question 3. D'où vient le nom de Kirby?
Ah, ça vient d'un avocat de Nintendo qui avait défendu la boîte quand ils se sont fait attaquer pour avoir sorti Donkey Kong qui était un rip-off de King Kong.
Exactement.
Et il avait gagné le procès.
Ouais. Et c'est pour remercier leur avocat John Kirby qui leur avait permis de gagner le procès contre Universal.
Ouais.
Et je trouve ça super stylé. Donc, autre définition. Sous tes airs gentils, tu caches un tempérament électrique.
Pikachu.
Pikachu.
Mais non. C'est pas ça aussi. Nico qui s'en veut d'avoir réagi en troisième.
Donc on a 2 points pour Baptiste, 1 point pour Nico, 1 point pour Val.
Ouais.
Ouais.
Ouais, il a réagi avant. Ouais.
Alors, Nintendo a refusé un prototype d'un jeu de plateforme prévu pour un de ses héros. Le jeu est quand même sorti, mais retravaillé.
Yoshi.
Alors, c'était en effet une proposition pour Yoshi, mais il n'est pas sorti en tant que Yoshi,
Croc.
Puisqu'il n'est pas... Voilà, c'est ça, c'était Croc.
C'est Argonaut, en fait.
Paumé,
c'est Argonaut.
Les mecs qui avaient fait Star
en
Fox.
En gros, ils avaient fait une proposition d'un Yoshi, et Nintendo a dit, Starfoula, on ne veut pas de votre jeu. Du coup, ils ont fait Croc, Legend of the Gobos, qui est un jeu sur Play.
Ça a brisé leur relation, parce qu'ils avaient... En fait, ils avaient fait... C'est pas le temps le fait qu'ils aient fait le jeu, qui en plus était très bien, c'est le fait qu'ils aient fait sans demander à Nintendo... Et que Nintendo, en fait, à l'époque, était hyper contrôle freak sur ses personnages. Ils ont fait quoi? Vous avez fait un jeu Yoshi avec notre Yoshi alors que vous n'avez jamais donné l'accord?
Voilà.
Et du coup, ils ont dit, vous voulez pas de nous, on va chez la Play, c'est ça?
Il y a eu l'annulation de ce jeu, plus d'autres jeux Super NES, dont Star Fox 2, comme disait Val. Ouais. Ils se sont dit, Argonauts, ils ont dit, bon, ouais, c'est bon, ils nous saoulent.
Star Fox 2, c'est pour une autre raison.
Il avait été prototypé, hein. il y a un jeu qui circule.
Il est fini, il y a une version finie qui circule, quasi finie, qui ne circule pas, justement.
Oui.
Mais voilà, ils avaient bossé plusieurs fois et du coup, ça a mis fin au partenariat. Mais c'était Croc.
L'ancien Argonaut a dit d'ailleurs très récemment, il a fait ah, la ROM prototype sur le net. Oh, bah, moi j'ai une version plus avancée, lol.
Il a
guaqué tout le monde.
Ah, donc Valentin est en train de faire une remontée.
Ouais, on est à 2-2.
C'est quoi les scores là?
2 pour Baptiste, 2 pour Valentin, 1 pour toi.
Oh.
Oh. Alors, devinez le personnage. Innocence incarnée, tu es quelqu'un de digne de confiance, d'un naturel aussi battant qu'intelligent. Tu ne te laisses jamais aller à la mélancolie et rien ne peut t'atteindre. Mais attention, tu plais beaucoup et attises du coup toutes les jalousies.
Todd?
Non.
Non.
C'est pas Peach. C'est une autre princesse. Attends, c'est Zelda, non?
C'est Zelda.
Ah bah voilà.
De partout. Oh, c'est
merde,
super
c'est
serré.
C'est chaud, ouais.
Alors, question culture générale. Comment se reproduisent les Yoshi?
Avec des œufs.
Non, il n'y a pas de Yoshi dans les œufs aussi.
Si, ils pondent des œufs.
Attends, il passe son temps à les jeter, les œufs, il tue ses gamins.
Ça dépend, parce que tu sais, dans Super Mario World, ils sortent d'un œuf quand tu les fais revenir.
Ouais.
Ah, je sais pas alors. Je crois pas que ce soit avec des œufs, si.
Bah, non, bah, en fait, non. C'est en fait, on sait pas. C'est une question piège.
Mais du coup, j'ai raison, parce que tu dis que c'était pas des œufs.
En gros, tous les Yoshi peuvent pondre des œufs à volonté quand ils avalent un truc. Mais ça sert surtout à se défendre, donc ce que disait Oni, parce qu'il les lance. Il y a des cas de naissance par éclosion, mais on ne peut pas savoir quels œufs sont différents de ceux qui ont des bébés ou pas.
Moi, je propose que tu mettes 0 point, parce que...
Je vais mettre 0 point. Ouais, c'était
tous votre...
c'était
mais potentiellement, quand
piège.
Tu joues à Yoshi's Island et que tu lances des œufs, tu fais un génocide, en fait.
C'est ça. Ouais, potentiellement. Ouais. En fait, on ne sait pas. C'est... Des fois, il y a des bébés,
ça,
des fois
ça
non.
Ça va arrêter Nintendo pour bien d'autres sujets.
Et il y a un truc intéressant, c'est que des fois, tu as des œufs qui font sortir un bébé, Yoshi, et puis des fois t'as des œufs et direct un adulte qui sort. Personne comprend. C'est n'importe quoi.
C'est un peu le bordel, quoi.
C'est ça.
En même temps, ils ont bossé leur sujet chez Pokémon, mais là.
Zéro. Zéro. Alors, du coup, autre définition de personnage. Tu fonces tête baissée quand il s'agit de défendre des causes aussi nobles que justes. Ton grand charme couplé à ta force de frappe font de toi une véritable machine de guerre que personne ne peut arrêter.
Captain Falcon?
Non.
C'est le mec de Fire Emblem, là, non?
Non.
Je sais plus comment il s'appelle.
Merde.
Fonce tête baissée.
Fox McCloud?
Mm-hmm.
Oh putain.
Merde. C'est pas Yoshi.
Super Mario?
Non.
Non, putain, c'est chaud.
Tu peux redire, attends que.
Tu fonces tête baissée quand il s'agit de défendre des causes aussi nobles que justes. Ton grand charme couplé à ta force de frappe font de toi une véritable machine de guerre.
Samus Aran?
Oui.
Ah yes!
Ah, j'en étais sûr qu'il y avait un piège.
On cherchait tout ça. Mais oui!
Tu fonces tête baissée. Non,
vous cherchez un mec.
Bon,
et oui.
Ok.
Donc ça fait Valentin qui prend la tête. Par quoi a été inspiré le design de Bowser?
Un dinosaure?
Non.
Une tortue?
C'est des œuvres précises en l'occurrence.
Ah,
ah ouais?
Ouais.
Ah bon?
Ah, je suis contente, je vous piège, ça y est.
Des œuvres précises.
Je suis pas assez Nintendo fan pour savoir ça.
Attends. C'est pas des estampes japonaises avec.
Non, c'est plus pop culture que ça.
D'accord.
Andy Warhol.
C'est Godzilla?
Non.
Non.
Ah, ça aurait pu, je l'ai dit.
Les Tortues Ninja?
Non.
Non, c'est antérieur.
Encore que.
Bon, je vous donne un indice. Ouais. Ça a été inspiré par un personnage dans Dragon Ball.
La tortue géniale.
Non.
Dans Dragon Ball.
Ouais.
Par Shenron. Non, tu peux pas être Shenron.
Non.
Le dragon.
Non. Je vous dis.
Ouais.
Donnez votre langue au chat. Alors,
Ball,
à la base, c'était, il s'inspirait d'un, il voulait un corps de tortue avec une tête de taureau. Et du coup, il s'est inspiré du père de Shishi, donc Ox King, le roi taureau.
Sérieux?
Mais aussi, il y avait plusieurs réponses admises, mais aussi de Alakazam the Great, le roi taureau, qui était un film d'animation très populaire dans les années 60. Il s'est inspiré de il voulait une tortue avec une tête de taureau.
J'en avais aucune idée. Au mieux, j'aurais dit Godzilla,
pareil.
Et du coup, il y a une petite côte du chara-design qui dit « J'avais dessiné quelque chose de complètement incompréhensible, un corps de tortue avec une tête de taureau. Et à travers nos discussions, son apparence s'est peu à peu clarifiée. Puisque Bowser était de la famille des tortues, comme les Koopa Troopa, nous avons commencé à trouver des traits similaires entre les deux, puis nous les avons reproduits aussi fidèlement que possible et placés sur l'illustration suivante. » Et après, il était content, il a fait « Hey, je fais un Bowser qui est cool. »
D'accord.
Voilà.
Cool. Okay.
Donc, c'est la dernière question qui permettra peut-être à l'un de vous deux d'égaliser avec Valentin ou à Valentin de confirmer son statut
de
meneur.
De geek suprême Nintendo. Bravo Valentin, tu es le Nintendo Boy de cette table.
C'est pas fini, dernière question donc. Le plus mignon de tous, c'est toi. Parfois enfantin,
Kirby.
Parfois sérieux. Oui, c'est Kirby. Je finis quand même la définition.
Ah, mais non, mais
parfois enfantin, parfois sérieux. Tu es surtout un bon vivant qui s'assume pleinement. Brillant, loyal et toujours souriant. Carpe diem est complètement ta philosophie qui règne dans ta vie.
Lumière qui bouffe tout ce qui passe.
Lumière des arcs-en-ciel. Ah, je suis dégoûté. De toute façon, je suis jeu PC, moi. J'en ai rien à foutre de Nintendo.
Je me casse même pas. C'est pour les gamins. De toute façon, je m'en vais.
Donc voilà, c'était le petit quiz du mois de mai, parce que ça, je trouvais ça rigolo.
C'est stylé.
Voilà. Ouais. Et ben, du coup, bravo Oni et Valentin qui ont fait égalité. Et peut-être que chez nos auditeurs, il y aura eu un sans faute et qu'en fait, vous serez des merdes à côté. Voilà.
Il y a des chances.
Il
y a des chances.
Ouais.
Donc okay. Dites-nous vos scores en commentaire si jamais.
Eh bien, la Gapard 17, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis pour ce presque dernier numéro avant l'été. On revient très rapidement en juin, on était un petit peu à la bourre, là, donc on va avoir deux épisodes qui vont s'enchaîner peut-être rapidement, peut-être pas si on glande encore.
Mais ça sortira en juin.
Mais ça sortira en juin, parce qu'après, de toute façon, on sera
après, c'est les vacances.
Donc moi, je suis en train de jouer au jeu Saturne sur mon PC. Et puis voilà, bah, on vous souhaite bon jeu et on vous dit au mois prochain.
Bisous.
Et puis on vous laisse avec Zeus.
Le bonus de Zeus.
Le bonus des os.
Qu'on pourrait raccourcir en le Bosus.
Le Bosus.
Et ça marche aussi, le Bosus. C'est vrai que c'est un beau garçon quand même, Zeus. Le bonus de Zeus.
Ok.
Ouais, bah ça tourne là. Je pense que juste faire un bonus sur les gens au KLM agressifs dans la rue avec l'alcool.
On laissera Zeus décider du bonus.
Ah oui, coucou Zeus. On espère que tu vas bien et que tu négocies bien tes contrats pour devenir une superstar de les disques d'or.
Alors là, actuellement, il est dans sa belle famille dans l'est de la France et apparemment, ça a l'air d'être trop la fête. J'ai vu ses derniers tweets.
La fête bien ou la fête nulle?
Ouais, je sais pas. Qui suis-je pour juger après tout
C'est vrai.
Je ne me mouillerai pas.
C'est vrai que t'es personne.
Voilà.
Allez, on y va.
Chers copains de la Gapard, comme vous le savez sûrement, je suis actuellement chez ma belle famille dans l'est de la France. C'est trop la fête. J'espère que vous allez bien de votre côté et que je pourrai être des vôtres pour le prochain numéro. Je vous fais plein de bisous. Votre Zeus, qui vous aime fort. PS, je dois y aller. Je crois que mon beau-père et ses copains m'ont retrouvé.
Flash Info, la France a peur. Coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal.
Ah, cachez vos enfants, ils arrivent.
Radio Kawa présente LOL Japon.
Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.
Direct et avec vous grâce au hashtag Passe le Stick.
Bonsoir et bienvenue dans Passe le Stick, l'émission qui va bientôt prendre des vacances.
Pas de faire bien mérité parce qu'il est en train de
s'il vous plaît, ça ne va pas le faire. On ne pourra pas faire tenir un Passe le Stick en 20 secondes. Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de nous écouter tous les lundis dès 21h pour plus d'une heure d'actualité jeux vidéo en direct sur Radio Kawa. Et là, au moins, on devrait avoir le temps.
Tout à fait.
Merci, Pipo.